C'est le moment d'accueillir Yves François Blanchet pour la première fois cette semaine. Yves François, bonjour.
Bonjour, bonjour. J'ai essayé hier, puis ça n'a pas marché.
C'est ça. T'as appelé. Ça répondait pas. Yves François, on revient sur le dossier chaud actuellement. L'appropriation culturelle, ça commence à être un dossier plutôt complexe.
Ouais, en fait, à chaque été, ça nous prend le dossier de l'été. L'été passé, le dossier de l'été pour remplir les médias. Puis ça, c'est nous autres aussi, mais c'est correct, ça marche de même. Ça a été, bien sûr, et c'est encore plus proche dans le cas de Sherbrooke, ça a été les migrants. Cette année, on a l'air d'être bien parti avec le slave et le post-slave. Là, il y a des développements parce que il y a présenté à Paris dans un festival, ça s'appelle le Festival de l'automne, mais le 15 décembre. J'imagine que pour eux, l'automne se prolonge jusqu'au 15 décembre. Ici, 15 décembre, on commence à penser aux pneus d'hiver assez sérieusement. Et il y a une pièce qui s'appelle Kanata. Et la pièce Kanata est mise en scène par Robert Lepage, et elle fait état des relations complexes, notamment de l'enjeu des orphelinats, entre la société blanche et les Premières Nations. Sauf que, à part une consultation un peu sommaire au début de l'exercice, encore une fois, l'œuvre de Robert Lepage ne met pas en scène des artistes d'origine autochtone.
Ouais.
Alors là, mais eux, ils l'ont bien fait. Une communauté d'entre eux, plusieurs d'entre eux, ont signé une lettre qui a été publiée, notamment dans Le Devoir, puis qui dit, écoutez, on va encore regarder passer la parade. On va encore parler nous autres. On va encore réécrire notre histoire. On va encore parler en notre nom, mais sans nous impliquer, sans qu'on y soit, sans qu'un de nos nombreux artistes de talent n'y soit, sans que, comme exemple dans le film Hochelaga, on nous implique dans l'ensemble du processus à différentes étapes. S'il n'y avait eu que Slave, c'était réglé pour Robert Lepage pour l'essentiel, il avait dit ce qu'il avait à dire, mais là, en arrive une autre de gens qui le font correctement, qui ne sont pas soutenus par une gang de petits énervés, et qui disent, écoutez, poliment, humblement, on ne demandera pas d'annulation, on ne fera pas de censure, on n'est pas du monde de même, mais on trouve ça un petit peu ordinaire. Alors là, ça rejette de l'huile sur le feu sur le cas de Robert Lepage, faut pas exagérer, mais bon. Par contre, lui, cette fois-ci, répond en disant, écoutez, je veux vous rencontrer.
Voilà, c'est ça que j'aime, moi.
Ça, il va y avoir une différence. Ah, ouais. Et tant qu'à y être, il se trouve que le cas Kanata va ouvrir la porte à une espèce de révision plus vaste. S'il était allé directement répondre aux gens qui ont fait une forme d'intimidation politique, les fameux antifas qui disent que nous sommes tous des racistes, toi et moi aussi, s'il était allé directement les voir, ça aurait pu passer moyen. Tandis que là, en rencontrant les gens des Premières Nations, et par la suite, il dit « Ok, je veux bien rencontrer les gens de Slave Résistance », là, il se trouve à reprendre l'initiative de façon correcte pour une raison fort simple. Dans le cas de Slave, c'est le Festival international de jazz qui a voulu éviter d'entacher sa réputation à l'échelle internationale, notamment auprès des artistes jazz américains qui vont devoir booker l'année prochaine ou l'autre année d'après.
Ils ont eu peur.
Mais là, puisque le dénominateur commun des deux cas, c'est Robert Lepage, mais là, c'est à lui de prendre l'initiative puis de dire « Ok, c'est mon image à moi, c'est ma réputation comme metteur en scène qui est en jeu, alors je suis obligé de prendre le taureau par les cornes puis de dire on va y aller. » Il y a quelque chose de sain quand même. J'aime beaucoup mieux la façon dont ça a été fait par les gens des Premières Nations qui sont pas... Tu sais, on fait une comparaison, il y a des gens qui m'ont envoyé des questions, c'est bien amusant. Est-ce qu'un antifasciste blanc qui manifeste contre Slave, alors que lui n'est pas un noir, fait de l'appropriation culturelle? C'est intéressant comme question.
Ouais,
il n'y a pas d'enjeu de domination, mais il y a certainement un enjeu de récupération. Est-ce que Justin Trudeau, costumé en Inde, fait de l'appropriation culturelle? Parce que Justin Trudeau n'est pas indien, puis il vit pas dans un pays en développement. Hop. Ça n'a pas impressionné les Indiens, ça c'est clair. Est-ce que le Haut-Canada, qui a été écrit par à l'époque on appelait ça, des Canadiens français, et qui était un chant nationaliste canadien-français, mais qui a été repris et traduit par le Canada et qui maintenant peut, en certaines circonstances, être chanté au visage des Québécois qui partagent pas cette vision-là. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Tu sais, il y a de nombreux cas où on pourrait se poser la question.
On peut s'interroger là-dessus, c'est clair.
Ben oui, où la notion devient un peu n'importe quoi et le reste. Mais je suis, pour ma part, très sensible à la façon dont les gens des Premières Nations ont amené leur affaire avec une série de signatures hautement crédibles.
Mais surtout, on a le temps,
milieu culturel.
On a le temps de réagir, Yves-François, et d'apporter des ajustements s'il y a lieu.
Oui, et cette approche-là évite aussi le côté spectaculaire de l'autre. L'autre, c'est spectaculaire, fallait que ça fasse. Il y a des kids qui aiment ça voir le face dans le Kodak. Dans le cas présent, les gens des Premières Nations, d'ailleurs beaucoup d'Atikamekw, qui sont une communauté de la région où moi je demeure, ils sont en Haute-Mauricie, là, je les croise pas tous. Ben oui, j'en croise de ceux qui vivent à grand-mère, à un jet de pierre de chez moi, mais c'est une communauté qui a comme caractéristique d'ailleurs que 85% d'entre eux vivent encore en langue Atikamekw, et ça c'est très très rare.
Impressionnant aussi. Yves-François, passons au sujet numéro 2 de ce matin. En vue de la campagne électorale qui approche à grands pas, est-ce que le PQ pourrait prendre le comté Laurier-Dorion?
Selon QC 125 et moi, non. Mais ça va être intéressant. En 2014, Jerry Sklavounos, célèbre devant l'Éternel, mais pour de bien mauvaises raisons, a eu 48% du vote. On suppose qu'il y a sérieusement magané la marque libérale. Et le candidat libéral, cette fois-ci, c'est un certain Georges Tsantrizos, toujours pour le PLQ, donc, qui était un très proche, qui était décrit comme le bras droit même de Jerry Sklavounos. Et j'espère que le Parti libéral s'imagine pas qu'on pense qu'alors que le Québec au complet, au moins la colline parlementaire au complet, avait entendu parler, que ce soit fondé ou pas, j'ai pas à le dire, avait entendu parler du mode de vie nocturne de Jerry Sklavounos, que son bras droit en a jamais entendu parler. Fait qu'ils mettent lui comme candidat, c'est pas la meilleure affaire pour eux autres. Fait que je les imagine pas à 48%. QS était à 26%, c'est quand même très fort. Est-ce que QS va monter? Pas tellement, parce que, je vais vous dire après c'est qui, mais la candidate du Parti québécois va aller jouer sérieusement dans les talles de QS. Un peu, bien que ce ne sera pas suffisant dans ce cas-là non plus, comme dans Mercier. Michel Blanc, ça va brasser QS quand même dans Mercier.
Ça devrait.
Le PQ avait fait 16% avec Pierre Séry. Rappelez-vous, Pierre Séry, c'était ce candidat à la direction du Parti québécois, un militant syndical. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur comté pour lui. Et la CAQ, à l'époque, ça avait été marginal. Donc là, le PLQ va reculer. La candidate péquiste va probablement bien se positionner. Et je vous dis pourquoi. C'est une dame qui s'appelle Marie-Aline Vadius. C'est une ancienne présidente du Conseil interculturel de Montréal. Elle est dans un truc assez connu quand même, qui s'appelle le groupe des 30, qui est un groupe de gens jeunes issus des communautés culturelles impliqués dans un ensemble de conseils d'administration, donc exerçant une influence au moins sur l'île de Montréal. Donc, elle va aller jouer d'un tal de Québec solidaire de façon assez importante. Et l'autre facteur, c'est que la CAQ a monté sur l'île de Montréal. Peut-être pas assez pour prendre des comtés. En tout cas, oui, il y a une menace sérieuse dans Pointe-aux-Trembles, il y a peut-être une certaine menace dans Bourget, mais pas assez pour prendre ben des comtés, et assurément pas assez pour gagner Laurier-Dorion, mais assez pour aller gruger des votes au Parti libéral. Fait que,
intéressant à suivre ça au cours des prochaines semaines.
Moi, je pense que QS va peut-être profiter de la faiblesse du Parti libéral. Le PQ va se positionner mieux que la dernière fois. Et au moins, ça sera un comté spectaculaire à suivre.
En quelques secondes, petit clin d'œil. Donald Trump veut revenir et Mélanie Joly revient.
Ça sera pas ennuyant. Bon, d'abord, Donald Trump est rentré dans sa rencontre avec Vladimir Poutine il y a environ 2 minutes et demie. Et là, il a annoncé en fin de semaine qu'il comptait être de nouveau candidat. Finalement, il aime ça, faire suer tout le monde. Et ce sera distrayant à défaut d'être sécuritaire, parce que Dieu sait que le bonhomme est de plus en plus dangereux. Mais, pour que la politique canadienne ne devienne pas plate et que ça reste joyeusement coloré, Mélanie Joly a eu son assemblée d'investiture en fin de semaine et elle sera, à notre plus grand bonheur à tous,
on est-tu content?
De nouveau candidate en 2019 avec Justin Trudeau. Fait que ça va être distrayant, mais ça va être dangereux dans l'un et l'autre cas. Et on a aussi notre ami Gaétan Barrette qui, sur le fond, il y a des affaires intéressantes dans son truc, là, qui a mis un tweet en ligne en fin de semaine où il demandait à François Legault et à Nathalie Roy de la CAQ s'ils étaient contents que la France ait gagné la Coupe du Monde puisque leur équipe est composée, il ne précisait pas ça, là, mais à plus de la moitié de gens issus de l'immigration en France. C'était pas très habile. La CAQ, c'est pas le Front National français, on se calme. Alors, il a rapidement effacé son tweet, s'étant rappelé qu'il est sous l'objet d'une directive au Parti libéral, c'est quand t'as quelque chose à dire, tais-toi. Et là, il l'a échappé.
Il a essayé
de remettre le tube dans le pâte à dents, mais bien sûr, il y a des gens qui se sont empressés de faire des captures d'écran. Et parlant de captures d'écran, j'en ai pour toi dans les prochains jours. Il y a plein de belles petites affaires qui se passent. Durant l'été, c'est très drôle. Si t'es à l'affût, là, il se passe des belles petites affaires. La CAQ, ils sont en train d'apprendre c'est quoi être un parti politique majeur avec toutes les erreurs que ça implique.
Ben Yves-François, on se garde ça en réserve. Merci, passe une excellente journée. On se reparle demain matin.
Oui, monsieur.
Bye-bye. Yves-François Blanchet pour son commentaire de ce matin.